Bienvenue à Innove et Créa. Aujourd'hui, on rencontre Malie Hills-Paquin. Bonjour, Malie.
Bonjour, Anne-Julie.
Tu es consultante en résilience urbaine et climatique.
Oui.
On va parler de toutes ces belles choses-là, mais avant, on discutait l'autre jour du fait que toutes les deux, on était des grandes aventurières, on avait voyagé, on avait fait plein de choses. Donc, tu as une première riche carrière comme journaliste et correspondante à la presse puis au Guardian.
Absolument.
T'as fait ça pendant huit ans, c'est ça?
Oui, j'ai été 8 ans correspondante en Europe. J'ai eu la chance de vivre cette aventure incroyable de 2005 à 2014, 2013-2014. Donc, j'ai vécu pendant 7 ans à Londres comme correspondante pour la presse. Et ensuite, j'ai déménagé à Rome où je suis demeurée pendant 1 an et où j'ai eu la chance là aussi de couvrir des événements fort intéressants comme l'élection du nouveau pape en 2013. J'étais assez chanceuse, j'étais là au bon moment pour couvrir ça. Et comme tu l'as dit, par la suite, quand je suis revenue à Montréal, j'ai eu la chance de collaborer avec The Guardian à ce moment-là comme correspondante à Montréal.
Puis après ça, tu as décidé de retourner aux études, de faire une maîtrise en gestion de l'environnement.
Oui.
Et c'est ce qui nous amène à parler de notre sujet d'aujourd'hui, de tous ces beaux sujets-là.
Oui, c'est ça. En fait, je peux expliquer un peu comment j'ai fait cette conversion-là parce que ça peut sembler un peu étonnant, mais en gros, j'avais l'impression d'avoir vraiment vécu l'aventure que je voulais vivre à l'étranger comme journaliste. J'avais couvert tous les sujets imaginables et donc j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour du jardin sur cette question-là. Et aussi, en même temps, il y avait une conscience environnementale qui devenait de plus en plus forte en moi. Elle était toujours présente, latente, si on veut, par le passé. Je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un qui se souciait pour la nature, qui recherchait le contact avec la nature, même si j'adore les villes. J'avais toujours ce besoin sporadique de retourner à la campagne pour me ressourcer. Et donc, à partir de 2015, ça coïncidait aussi avec un reportage d'enquête que j'ai fait pour The Guardian sur les politiques environnementales du gouvernement Stephen Harper. Parce que à l'époque, c'était les élections fédérales, donc l'année où Justin Trudeau a été élu, bien en amont de cette élection-là, durant la campagne électorale, donc j'ai fait du travail d'enquête sur l'impact des politiques de Harper sur l'environnement, entre autres, et c'était évidemment assez troublant. Et ça, c'est vraiment venu me chercher profondément. Ça l'a ravivé davantage la flamme de ma conscience environnementale. Et donc, j'étais déjà prête à passer à un autre chapitre dans ma vie. Et au fil des mois, après quelques années de réflexion, j'ai décidé que je voulais vraiment m'engager à temps plein dans la cause environnementale, si on veut appeler ça comme ça. Mais je voulais faire une différence dans la société. Je voulais faire une différence dans la situation actuelle. J'ai décidé de réaliser une maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke, qui a été vraiment une superbe expérience. Et au cours de cette maîtrise-là, j'ai eu un coup de cœur pour toute la question touchant la biodiversité urbaine. Et j'ai aussi eu la chance d'aller pendant 6 mois à Copenhague pour un semestre qui est consacré entièrement aux villes durables et résilientes. Ça a continué à nourrir ma réflexion et à me spécialiser davantage dans le domaine que je voulais, dans lequel je voulais exercer.
Ça t'a amené à faire un stage pour la Fondation David Suzuki quand même, on pourra en parler, là, mais fait que c'est vraiment devenu ta vie. Avant qu'on aille plus loin, je te pose la question que je pose à tous mes invités, la question racine. Quand tu étais petite, mettons, je sais pas, 10, 12, 15 ans, qu'est-ce qui te faisait triper? Par quoi tu étais fascinée?
C'est une bonne question. J'ai toujours été une enfant curieuse, toujours intéressée par l'étranger. J'avais la chance de pouvoir m'évader l'été à la campagne aussi parce qu'on avait un chalet dans la famille de mon père. Je veux dire, qu'est-ce qui me faisait triper à 12, 13, 14 ans? C'est pas mal la même chose que tous les enfants de 12, 13, 14 ans. Je veux dire, c'est l'âge de nos premières idoles, c'est l'âge de nos premiers grands projets. Mais il y a un moment, je pense peut-être, qui a été charnière pour moi, ou en tout cas un moment assez important qui a peut-être semé une graine pour ce qui est de ma conscience environnementale, c'est que j'avais un professeur en chimie qui faisait par moment un petit peu un éditorial par rapport à l'impact des activités humaines sur l'écologie. Je me souviens très bien d'une fois où il nous a dit à la classe, nous, on est tellement complaisants dans nos styles de vie, on va utiliser un mouchoir, on va le mettre dans la bolle de toilette, on va tirer la chaîne, puis on n'y pensera plus. On ne pensera pas à comment ce mouchoir usé-là va être éliminé, ou jusqu'où il va se rendre. Et ça a vraiment fait une impression sur moi, un commentaire aussi banal, tu sais, comme quoi pour dire, on ne sait pas toujours l'impact que nos paroles peuvent avoir sur les enfants, sur les autres personnes. Puis je me dis, mon Dieu, c'est vrai, les conséquences de chacun de nos gestes ont un effet papillon, si on veut, là, un ripple effect. Donc, ça a été peut-être un moment charnière pour moi.
Une des choses que j'aimerais adresser en premier, en fait, c'est un terme que j'aime beaucoup et que je trouve fascinant, qui est phytotechnologie. Et ça peut paraître, oh mon Dieu, impressionnant, puis tout ça, mais c'est vraiment... En fait, d'utiliser la nature comme médium à résoudre des problèmes.
Oui.
Est-ce qu'on peut?
C'est super bien.
C'est une bonne façon de décrire.
Oui, c'est une excellente définition. J'aime ça. Oui, donc les phytotechnologies, c'est, comme tu dis, c'est un terme qui peut sembler rébarbatif ou élitiste, mais c'est bien simple. C'est des solutions qui s'inspirent de la nature, qui s'inspirent du génie végétal pour remédier aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, notamment en milieu urbain. Parce que historiquement, nos infrastructures humaines, celles qu'on a développées pour vivre en société, pour vivre en milieu urbain, au début, elles pouvaient sembler ingénieuses, miraculeuses, presque une panacée, mais au fil des décennies et avec l'expansion de l'étalement urbain, ça a provoqué beaucoup de problèmes.
Je trouve ça intéressant parce que en préparation de notre entrevue, on jasait l'autre fois, tu sais, je disais, en fait, les innovations d'une époque deviennent les problèmes d'une autre époque. Puis de se retourner vers la nature, tu sais, on se disait, c'est-tu de l'innovation? Mais en fait, c'est du reverse engineering, du reverse innovation. Parce que c'est de faire comme, oh, attends un petit peu, il y a peut-être des solutions qui existaient déjà, qu'il faut peut-être réintégrer, revisiter, réincorporer dans nos systèmes, en fait.
Oui. Et ça me fait penser à peut-être que, tu sais, au début du siècle dernier, on avait une autre idée de ce qu'était le progrès technologique, de ce qu'était le génie humain, si on veut mettre ça comme ça. Et parallèlement, on peut penser à d'autres secteurs où il y a aussi un retour vers la nature, questionner le parcours, la trajectoire qu'on a prise et réaliser que au départ, la nature a déjà des solutions aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui.
Parmi les exemples que tu me donnais, il y avait, par exemple, les cours d'école. T'sais, si on veut, mettons, matérialiser ça très concrètement pour les gens, repenser une cour d'école, les arbres, t'sais, qui se trouvent à être tellement puissants dans leur pouvoir de climatisation, de purification de l'air. Peux-tu nous parler un peu? Parce que je pense que c'était, en fait, ta thèse était autour de ça, de ce sujet-là. Oui. Ça, c'est concret, là. C'est nos quartiers, c'est au bout de la rue.
Avec plaisir, je vais t'expliquer. Parce que vous avez probablement, là, je m'adresse aux auditeurs, remarqué qu'en sortant de votre voiture dans un stationnement qui est complètement bétonné, asphalté, que c'est souvent chaud, ou quand vous retournez dans la voiture, que c'est un four. Et ça, c'est parce que les matériaux qui sont utilisés pour couvrir les rues, les stationnements, les cours d'école, c'est de l'asphalte et ces matériaux-là absorbent la chaleur au lieu de la refléter. Alors, ils vont absorber la chaleur le jour et ils vont relâcher la chaleur, surtout la nuit. La nuit, c'est très criant, la différence qu'il peut y avoir entre la température ambiante, par exemple, au-dessus d'un stationnement et un boisé à proximité. Il peut avoir 10 à 12 degrés de différence entre les deux.
Ah, mon Dieu!
C'est énorme. Alors, les cours d'école, nos chers cours d'école où nos enfants s'amusent à chaque jour, si elles sont complètement asphaltées, ça devient donc des îlots de chaleur urbains. Et une façon de remédier à ce problème-là, parce qu'évidemment, ça peut causer des malaises physiques, d'être aussi autant exposé à la chaleur sans pouvoir être abrité d'un arbre, par exemple, sans contact direct avec la nature. Donc, il y a une mouvance en ce moment. C'est une mouvance dans les centres urbains de façon générale, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi au Québec, où, par exemple, il y a des projets de ce qu'on appelle des parcs-écoles. Donc, c'est des cours où l'asphalte est complètement arraché. On remplace ça par des matériaux qui sont semi-perméables, ce qui veut dire que les matériaux vont absorber en partie l'eau de pluie. Comme ça empêche la formation de mort, si on veut, au milieu des cours d'école.
Tu peux jouer quand même dehors après une pluie.
Exactement. Il va y avoir des parcelles boisées, végétalisées. Il peut y avoir un espace qui va être consacré à un potager dans lequel les écoliers peuvent s'investir. Il peut y avoir des activités rattachées à ces potagers-là. Donc, c'est une mouvance en ce moment qui prend de l'ampleur et qui fait ses preuves.
Assez pour se dire, bon, ben nous, cet été, il n'y a pas d'école, on arrache l'asphalte puis on fait ça. Ce serait quelque chose qui aide. Ça a vraiment un impact, en fait. D'éliminer ces îlots de chaleur-là dans un quartier, fouettant de quartier. Puis c'est une solution accessible, on s'entend, là.
Ah oui, absolument. Puis, la ville de Paris est en avance dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de financements qui sont offerts au milieu scolaire pour végétaliser une partie des cours d'école ou complètement les refaire à neuf. Il y a tellement d'occasions d'éducation pour les enfants en même temps, tu sais, dans l'aménagement de ces nouvelles cours d'école-là. Mm-hmm. Par exemple, tu peux installer un hôtel pour insectes pollinisateurs, par exemple. Et donc, c'est une façon aussi de s'assurer que les enfants, lors des jours de canicule, peuvent jouer dehors et ne sont pas obligés de rester à l'intérieur dans un endroit climatisé. Et ça va encore plus loin à Paris parce que ces cours qui sont complètement végétalisés sont également des lieux de rassemblement pour des personnes qui sont jugées vulnérables des quartiers où se trouvent les cours d'école. Alors, ça devient un peu un refuge pour la population avoisinante lors des journées de canicule.
C'est intéressant parce que ça veut dire que des innovations, du reverse innovation, deviennent de l'innovation sociale.
Oui.
Ça devient, veut pas, des projets d'innovation sociale, dès qu'on fait du maillage, l'apprentissage.
Absolument. J'adore le mot maillage. C'est des lieux de maillage social, les cours d'école. C'est les parents gravitent autour, évidemment, de ces cours d'école-là, la famille. C'est donc un lieu, un vecteur de résilience sociale également.
Avant d'aller plus loin, Mali, j'aimerais ça que tu nous expliques ce qu'est une infrastructure végétalisée. Donc, dans ton monde, c'est quelque chose d'évident. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, comment on peut les reconnaître, même sur notre parcours le matin? À quoi ça sert, puis c'est quoi?
Alors, il y a plusieurs types d'infrastructures végétalisées qui est un autre terme pour les phytotechnologies. Donc, comme je l'avais mentionné, c'est des solutions inspirées par la nature. Donc, c'est des ouvrages qui font du mimétisme, si on veut, de ce qui se trouve dans la nature sauvage. Donc, par exemple, on a, depuis les années 90, on a un type d'infrastructure végétalisée qui s'appelle une biorétention. C'est des bassins végétaux qui ont des fonctions de rétention et de traitement des eaux pluviales, qui vont donc permettre de détourner une partie des eaux pluviales qui, normalement, vont aller dans le système d'égout. Alors, c'est bien simple. Par exemple, imaginez une ruelle verte. Des fois, dans une ruelle verte, il va y avoir des petites bandes de terre ici et là. et vous allez remarquer que où il y a plus de bandes de terre, il y a moins d'eau latente qui est restée en surface après des eaux, des précipitations abondantes. Alors, c'est le même principe. Donc, une biorétention, un terme qui pourrait donner une meilleure idée, on appelle ça aussi un jardin de pluie. Mm-hmm. Alors, si vous voulez, c'est un jardin où il y a une légère dépression, c'est-à-dire que c'est fait en pente. Par exemple, ça va être un jardin, vous savez, à la place de saillies qui sont souvent près d'une intersection où il va y avoir un passage piétonnier. De nos jours, il y a souvent des saillies, c'est-à-dire que les bandes de trottoirs se rapprochent pour assurer la sécurité des piétonniers pour qu'ils puissent traverser la rue. Donc, au lieu de faire simplement des saillies asphaltées, on va mettre à la place de l'asphalte des jardins de pluie. Et donc, à l'approche de ces jardins de pluie-là, il va y avoir une légère pente vers les ouvrages végétalisés.
Ça veut dire que l'eau, elle s'en va vers le centre de cet espace-là pour se diriger dans la terre.
C'est ça. C'est une façon de s'assurer que l'eau de la rue va être acheminée naturellement par les pentes vers le jardin de pluie. Le jardin de pluie lui-même a une, comme tu dis, une dépression. J'ai pas vraiment de meilleur terme pour expliquer, là, mais c'est en pente.
Ouais, ouais.
Ce qui permet, lors de grosses pluies, d'avoir un petit peu d'eau en surface. Et c'est pas un drame parce que l'ouvrage est fait pour absorber cette eau-là. Mais aussi, les infrastructures végétalisées, c'est aussi des toits verts. Je pense que tout le monde est assez familier avec le concept de toits verts ou de murs végétalisés aussi. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus poussé comme des marais filtrants. Et là, c'est parce qu'on a tellement éradiqué les milieux humides des agglomérations urbaines, des milieux humides qui vraiment avaient une fonction super importante pour non seulement absorber les pluies abondantes, mais aussi pour recharger les nappes phréatiques. Alors, les marais filtrants, eux, de leur côté, si on veut les distinguer des jardins de pluie, vont avoir une fonction de décontaminer les eaux qui vont les traverser. Alors, ça, c'est seulement quelques exemples d'infrastructures végétalisées qui sont implantées en milieu urbain pour pallier, remédier aux problèmes avec lesquels on est pris aujourd'hui.
J'ai envie de faire un bond à ce moment-là pour que tu nous parles de Copenhague. Je trouve que ça se prête bien parce que, comme je te le disais dans une autre conversation qu'on a eue, avec tous les problèmes concernant l'environnement auquel on fait face, dont on entend parler pratiquement quotidiennement, quelqu'un qui n'est pas trop versé là-dedans peut aussi sentir en proie à ce qu'il y a quelque chose qui est reconnu maintenant, c'est de l'éco-anxiété. Puis ça va nous paralyser. Fait que plutôt que de pouvoir agir comme on le peut, selon les moyens, vers une mise en place de solutions, on reste un peu figé. Et je trouvais ça intéressant, tout ce que tu avais découvert en étant à Copenhague, parce que c'est des choses qui existent, c'est des villes durables qui existent, qu'on peut, tous des principes qu'on peut mettre en place d'ores et déjà. Puis c'est souvent beaucoup plus une question de politique que l'investissement de valeur soit investi là-dedans, que de capacité technologique ou technique à le faire, là. Puis Copenhague en est une belle preuve.
Oui, c'est un bon exemple parce que Copenhague est souvent aux prises avec des pluies diluviennes et en 2011, la ville a été la proie de grosses inondations. Et ça a été une grosse remise en question du côté de la ville pour se dire, bon, ben on peut pas continuer à faire comme on faisait. Il faut trouver des nouvelles solutions. Il faut élargir notre palette de moyens, de mesures pour remédier à ces problèmes-là parce qu'on sait que les pluies vont devenir de plus en plus abondantes à l'avenir. Donc, qu'est-ce que la ville a fait? Elle a inauguré, un peu comme un projet pilote, vers, je pense, en 2015 ou 2016, elle a inauguré carrément un quartier climatique où c'est toute une chaîne, un maillage de biorétention d'un après les autres. Il y a eu des plantations d'arbres et d'arbustes aussi fort importantes. Et au centre de ce complexe-là, si on veut ce complexe de biorétention, il y a une place publique où les gens peuvent se rassembler avec des informations et des jeux éducatifs pour les enfants aussi. Je pense que c'est toujours important de garder en tête une dimension éducative de ce genre de grands projets-là. Et ça, c'est vraiment un grand succès. Les commerces à proximité même ont vu leur achalandage augmenter. Donc, ça a vraiment il y a des co-bénéfices super intéressants aussi avec ce type d'ouvrage-là. Je dois dire aussi que il y a d'autres grandes villes qu'on ne soupçonnerait pas qui adaptent aussi en masse ce genre d'infrastructures végétalisées-là. J'ai envie de mentionner l'exemple de New York qui a recours à des biorétentions, elles appellent ça des cellules de biorétention, donc des petits jardins de pluie échelonnés à travers le territoire de New York, afin de détourner et de diminuer la quantité astronomique d'eau usée qui se retrouve dans le fleuve Hudson à proximité, parce que la ville a réalisé que c'est un gros, gros problème. Et ça fonctionne tellement bien qu'en 2019, je pense, ils ont annoncé qu'ils allaient injecter encore plus d'argent dans ce programme-là pour au final atteindre au moins 5000 cellules de biorétention à New York, ce qui permettrait d'éviter autour de 1,5 milliard de litres d'eau usée qui sont détournés des cours d'eau et traités de façon naturelle à ce moment-là. Wow. Parce que c'est un gros, gros, gros problème, ce qu'on appelle les déversements d'eau usée dans les cours d'eau à proximité des villes, des grands centres urbains. Montréal a un gros problème à ce sujet-là, comme beaucoup d'autres centres urbains au Québec. Et ça, c'est dû en grande partie au système d'égouts qui recueille autant les eaux sanitaires que les eaux pluviales, au lieu de séparer les deux. Alors, c'est ce qu'on appelle un système d'égouts unitaire. Et ce qui fait qu'avec les pluies qui sont de plus en plus importantes, ben il y a de plus en plus de rejets dans les cours d'eau environnants. Puis si je peux donner une statistique qui est chez nous au Québec, j'avais obtenu les données pour la ville de Montréal en termes d'épisodes de déversement d'égouts en 2019 dans les cours d'eau et on dénombrait 1877 épisodes seulement pour l'année de 2019.
Donc, c'est chose commune, là, tristement, là. C'est ça que ça veut dire.
On n'en parle pas beaucoup. On en parle très peu dans les médias pour diverses raisons. Parce qu'il nous manque d'informations, je pense. Mais c'est un gros problème et c'est en augmentation parce que ce chiffre de 1877 épisodes là, que j'ai obtenu de la ville de Montréal elle-même, ben c'est une augmentation de 30 % par rapport à 2013.
Ben voyons donc.
C'est ça, de 2013 à 2019, il y a une augmentation de 30 % de déversement d'égouts qu'on appelle aussi des surverses. Communément, on peut appeler ça des surverses comme phénomène. Ouais.
Une des autres solutions dont tu me parlais, qui est plutôt au niveau justement de la résilience urbaine puis de trouver un moyen d'éviter qu'il y ait des îlots de chaleur qui se créent, c'est les toits blancs. En fait, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je lisais là-dessus puis j'ai trouvé un papier. D'ailleurs, je vais mettre toutes les références dans les notes d'épisode où on disait qu'il y avait les solutions pouvaient être très colorées parce qu'on parlait de toits blancs, de toits gris puis de toits verts. Peux-tu un peu nous expliquer la différence entre tout ça?
Oui, donc les toits blancs, c'est quand même de plus en plus répandu dans la ville de Montréal, entre autres dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, dont je suis une fière résidente. Alors, depuis quelques années déjà, dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, c'est obligatoire pour tout propriétaire qui veut refaire son toit, qui a des rénovations importantes à faire de son toit, que ce soit toit blanc, donc revêtu d'un matériau blanc. Pourquoi blanc? Parce que la couleur blanche a un facteur de réfléchissement de la lumière important. Alors, plus un matériau va réfléchir la lumière, moins il va l'absorber et réchauffer l'atmosphère, réchauffer l'air ambiant. Par exemple, la neige, qui est blanche, évidemment, a un facteur d'albédo, ce qu'on appelle le facteur d'albédo, c'est ce facteur de réfléchissement des rayons de soleil. Donc, la neige a un facteur de réfléchissement très élevé. Et c'est, entre autres, j'ouvre une parenthèse, c'est probablement pour ça que la planète se réchauffe aussi rapidement maintenant, c'est que nous avions une protection des rayons de soleil au pôle à cause des grandes étendues de neige et ces étendues de neige-là sont en train de diminuer. Alors, l'impact sur le réchauffement de la planète est exponentiel à cause de ça. Fermeture de la parenthèse. J'espère.
Attends, peu, je vais ouvrir une parenthèse à ta parenthèse. Est-ce qu'on peut aussi imaginer, de par nos grandes innovations, ce qu'on considère des innovations technologiques, tu sais, les bardeaux d'asphalte sur les toits, tout ce qui est noir, mais il y a une époque où c'est pas comme ça qu'on faisait des maisons non plus, là. T'sais, fait que l'utilisation de ces matériaux-là en plus grande présence, j'imagine, là, pas dû aider à faire réchauffer les quartiers, à faire réchauffer l'atmosphère aussi.
C'est un bon point parce qu'à une époque, c'est vrai que c'était en pierre blanche ou en bois.
En brique, là, tu sais, bouvetée.
Ouais, tout à fait.
Je ferme ma parenthèse dans ta parenthèse.
Alors, je retourne à ta question originale. Donc, l'adoption d'une politique qui encourage ou impose le blanchissement, si on veut dire ça comme ça, des toits, c'est une option intéressante, sauf que ça agit seulement sur la réduction des îlots de chaleur. Alors que si on regarde un toit végétalisé va aussi agir sur la rétention des eaux pluviales, donc va également avoir une fonction de rétention et d'absorption des eaux pluviales et va avoir aussi d'autres types de fonctions. Alors, il y a plus de bénéfices à avoir un toit vert qu'un toit blanc. En plus de ça aussi, j'en ajouterais quelques-uns qui me viennent à l'esprit, là, mais il y a toute une panoplie de bénéfices pour les toits verts, mais aussi ça agit comme un isolant pour l'immeuble. Ça augmente la durabilité du toit. Donc, ça a vraiment toutes sortes de bénéfices là, qu'on ignore. Parce que oui, des toits blancs, c'est quand même un progrès par rapport à des toits noirs, mais on peut pas aller chercher à ce moment-là les autres fonctions d'un toit vert. J'ajouterais aussi une amélioration de la qualité de l'air. Puis, par la bande, si le toit vert est quand même intéressant au niveau des arbustes puis des graminées qui sont là, ça peut aussi favoriser la création d'habitats pour la biodiversité. C'est pour ça que les infrastructures végétalisées sont tellement intéressantes. Elles sont plurifonctionnelles. Elles répondent à plusieurs problèmes en même temps. Alors que si on compare avec les infrastructures humaines, en guillemets, les infrastructures grises, c'est des infrastructures d'ingénierie, tu sais, par exemple, des conduites d'eau pour le système d'aqueduc, etc.
Tout ce qui a été toute l'époque bétonnière aussi, là.
Ils sont en décrépitude en ce moment, malheureusement, parce qu'elles ont toutes été construites massivement à la même époque. Alors là, on est prise à les remplacer, puis c'est extrêmement coûteux.
C'est peut-être plus la bonne solution, c'est ça? Cette innovation de l'époque-là est peut-être plus ce qui répond aujourd'hui à ce dont on a besoin en plus.
Oui, puis à l'époque, on peut comprendre que les ingénieurs de l'époque ne pouvaient pas non plus prévoir le réchauffement climatique avec lequel on est prise aujourd'hui, puis les effets en cascade de l'étalement urbain, de l'urbanisation massive là, qu'on a vécu dans le dernier siècle. C'est un petit peu un choc là, qu'on fait subir à la planète avec notre étalement urbain. Alors, ces infrastructures grises-là ne répondent qu'à une seule fonction, chacune d'elles, généralement. Alors que les infrastructures végétalisées vont répondre à plusieurs fonctions et sont beaucoup moins chères que les infrastructures grises.
OK.
Donc, j'ai sorti une autre petite fun fact pour toi.
Vas-y, j'aime ça des fun facts.
Si on regarde des conduites souterraines, elles peuvent coûter jusqu'à 1 000 le mètre cube d'eau retenue, par exemple, pour un réservoir en béton. Alors que si on installait, si on implantait en réseau un maillage de cellules de biorétention, si on veut reprendre l'exemple de New York, qui sont beaucoup moins chères, ben là, on gère l'eau en surface. On évite évidemment des inondations, quand c'est bien fait, évidemment. Et on a aussi la possibilité, lorsque ça communique avec la nappe phréatique, de recharger les nappes phréatiques. Parce qu'un autre problème qu'on est en train de réaliser, même au Québec, c'est qu'on est en train d'assoiffer les nappes phréatiques, de détourner des quantités importantes d'eau qui peuvent les recharger, tout simplement. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des municipalités qui sont en manque d'eau. Mm-hmm. Et il y a des gros problèmes parce que, par exemple, juste la petite ville de Sutton, en Estrie, commence à avoir des enjeux d'eau potable.
Ah, je trouve ça super intéressant que tu nous parles de ça parce que je me souviens pas si longtemps avoir vu un reportage qui faisait état de ces problèmes-là en Utah ou, tu sais, aux États-Unis, dans des contrées beaucoup plus chaudes, plus désertiques, mais de savoir que ici même, chez soi, c'est un problème, faut agir.
Oui.
Faut pas se rendre à ce point-là, puis c'est
on
ça qu'on
s'entend qu'on
faire,
est
en fait.
L'endroit probablement le plus riche de l'or bleu au monde. Et nous-mêmes, on est confrontés à cet enjeu-là. Tu sais, il y a matière à s'inquiéter là et à remettre en question notre aménagement du territoire, le développement urbain qu'on fait. L'étalement urbain, toutes ces questions-là, faudrait mettre un moratoire.
Mais c'est accessible, c'est ça qui est un peu fâchant, c'est que c'est pas comme si les solutions n'existaient pas puis n'avaient pas été prouvées ailleurs, là. C'est des solutions qui existent, qui sont applicables, qu'on peut mettre en place
très facilement. très facilement. Petite ou grande échelle, ces infrastructures végétalisées-là, c'est super intéressant. Puis, il y a tellement une grande marge de manœuvre au niveau des bénéfices qu'on veut produire, des fonctions. Et ce qui est étonnant, parce qu'il y a quand même, il y a eu quelques doutes au Québec par rapport, par exemple, une biorétention. Est-ce que ça peut aussi fonctionner en hiver? Et les recherches les plus récentes... prouve que oui, ça fonctionne en hiver, des jardins de pluie. Même dans nos hivers québécois, ça fonctionne.
Mais quand vient la fonte des neiges, à ce moment-là, c'est reçu par ces systèmes-là.
Absolument.
Plutôt que seulement être jeté dans les égouts, dans la rue, c'est absorbé. Il y a une belle... un beau fun fact, un autre beau fun fact que tu m'avais énoncé l'autre jour. Puis je veux qu'on le mentionne pour que les gens voient à quel point ils peuvent participer à changer le monde pour le mieux dans leur cours. C'est-à-dire que tu me disais qu'un arbre a une capacité de climatisation tellement grande qu'on... Je pense que les gens ne savent pas.
Oui.
Je te laisse donner le fun fact.
Merci. Donc, un arbre mature agit comme 5 climatiseurs pour une journée chaude.
Hey, c'est incroyable.
Et tout ça, c'est grâce aux fonctions d'évapotranspiration des arbres. Alors, c'est ce qu'on a perturbé avec nos centres urbains. C'est les systèmes naturels de circulation de l'eau, de l'atmosphère vers la terre en cycle. C'est ce qu'on a complètement perturbé.
Quand on pense à tous les nouveaux quartiers encore à ce jour, créés en rasant tout arbre, des quartiers entiers avec pas d'arbres, donc planter des arbres, people. Go! Dès le printemps, parce que c'est un non-sens, ça, c'est complètement loufoque.
Je veux dire, chaque arbre mature, et j'insiste sur le mot mature qui est abattu, vraiment, pour moi personnellement, là, je trouve que c'est une tragédie, surtout en milieu urbain. Et je pense pas qu'on réalise qu'on a un attachement à la nature. Il est plus là qu'on le pense. Je pense que les Québécois, on a un rapport à l'arbre qui est plus ancré qu'on le pense. Donc, oui, la meilleure chose que les gens peuvent faire, il y a bien des choses que les gens peuvent faire. Là,
oui, il y a plein de choses.
Dont de planter des arbres. Pourquoi pas planter un arbre pour chaque enfant qui arrive dans la famille?
Ou chaque être qu'on aime qui disparaît. Oui. Je pense que c'est tous des beaux symboles qui se permettent aussi de faire habiter un espace, pas juste, c'est un arbre, il y a une histoire autour, il y a un lien d'héritage autour de ça, il y a une histoire familiale autour de cet arbre-là. Si tout le monde s'y met un peu vers ça...
Mais on peut sortir de la cour de la maison, tu sais, on parlait tout à l'heure de cours d'école. S'il y a des parents qui veulent se rassembler, former un comité, trouver une façon de financer une transformation de la cour d'école, il y a façon de faire, il y a façon d'aller chercher des financements, que ce soit la caisse pop du quartier qui voudrait contribuer à ce projet-là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, appeler notre conseiller municipal. dire oui. Écoutez, on a besoin d'arbres sur notre rue. Est-ce que vous pouvez financer la déminéralisation? Là, je m'excuse, c'est un terme. C'est enlever l'asphalte où c'est possible, sur un trottoir, par exemple, sur la voie publique, pour mettre de la terre et planter, tout simplement. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu ici à Montréal, dans certains arrondissements. Je vais, encore une fois, faire la championne de mon arrondissement, mais l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie a un programme qui s'appelait « Faites comme chez vous » et avec une petite enveloppe budgétaire, donc ça encourage les gens d'un quartier de cultiver les fosses d'arbres, tu sais, de rajouter, par exemple, des fleurs, des cosmos, de l'entretenir, peut-être mettre une petite clôture autour de la fosse pour qu'elle soit mieux protégée, pour attirer par la bande des pollinisateurs. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis souvent, on pense qu'on est seul dans notre coin à penser à ça, mais c'est pas vrai. Il y a tellement de façons. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement facile de former un petit mouvement de quartier ou un plus grand mouvement aussi. Tu sais, on a juste à penser à Greta Thunberg avec sa petite... Elle a commencé seule, là.
À l'école?
Oui, au pied de... Je pense qu'elle était devant le Parlement suédois avec sa pancarte écrite avec un... au marqueur. Tu sais, fait que si une fille de 16 ans peut révolutionner le monde, je vois pas pourquoi. Monsieur, madame, tout le monde, on serait pas capable. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'impliquer et faire une différence. Puis on peut aussi aller vers des organismes qui sont déjà reconnus en la matière, comme le Conseil régional d'environnement de notre région, qui ont souvent des programmes, qui ont besoin de bénévoles. Et là, on réalise, ah oui, OK, il y a tel programme. Et aussi, ramener les enfants à la nature, c'est tellement important. Mm. C'est nos citoyens de demain, c'est nos leaders de demain. Il faut les encourager à encourager leur curiosité et leur goût d'apprendre dans la nature.
Ben, écoute, c'est un parfait segue pour m'amener à ma dernière question, qui est, toi, dans ta pratique, dans ton domaine, ce que tu lis, ce que tu vois de pas être réjouissant toujours, on va se le dire, mais il y a tellement de gens qui travaillent fort pour renverser la vapeur. Comment tu vois, à courte échéance, l'avenir de tout ça?
Bien, disons d'abord qu'il y a des signes très encourageants, OK? Si on parle des infrastructures végétalisées, le gouvernement provincial, cette année même, a annoncé un programme de financement pour ce genre d'initiative-là. Mmh. C'est un programme qui s'appelle Oasis. C'est à la hauteur de, je pense, quand même quelques dizaines de millions de dollars là, qui sont à la disponibilité des municipalités qui voudraient végétaliser leur territoire davantage. Il y a tellement moyen de faire des municipalités plus viables, plus agréables, où la circulation routière est apaisée. Je pense qu'on ne réalise pas l'impact négatif des voitures dans nos villes. C'est énorme, autant au niveau de la santé humaine que les rapports humains. La résilience sociale est plus élevée dans les villes où il y a, sur les rues où il y a moins de voitures qui circulent. Okay. Il y a tellement d'articles de scientifiques qui le prouvent. Alors, moi, mon souhait, c'est ça, c'est qu'on ait des municipalités où il y a des voies multimodales, c'est-à-dire où des voies où il y a autant les vélos que les trottinettes, que les mobylettes électriques qui peuvent se déplacer, où il y a une belle convivialité entre les gens, où les gens sont amenés par des espaces végétalisés invitants à échanger entre eux.
À s'arrêter?
Oui, à s'arrêter, à faire une pause, à se ressourcer. Je pense qu'on réalise pas à quel point beaucoup de nos villes sont devenues des milieux hostiles, très stressants. J'ai bon espoir, il y a des signes encourageants, mais il y a énormément, énormément de travail à faire. S'il y a des familles qui nous écoutent, qui se demandent quelle est la chose qui pourrait avoir le plus grand impact pour aider nos écosystèmes, la planète et l'avenir de nos enfants, moi, je dirais, dans la mesure du possible, débarrassez-vous de votre voiture. ne serait-ce que la remiser durant l'été pour que vous puissiez... Puis tu sais, je comprends qu'il y ait des municipalités où c'est vraiment plus difficile de se déplacer en transport collectif ou actif, mais pourquoi pas faire l'essai de remiser le véhicule à essence durant l'été, quitte à utiliser le vélo, l'autobus, le métro si c'est possible. Une action qui aurait le plus grands impacts, ça et végétaliser le quartier, combinés ensemble. Puis après un été, je parle de 4-5 mois où la température est assez clémente, où on peut faire du vélo, marcher. Puis à quelque part, c'est hyper bénéfique pour notre santé, pour nos rapports avec les gens de notre quartier, etc. Donc ça, une fois de faire l'essai, voir, finalement, c'était pas si pénible que ça. Il y a aussi quelque chose de magnifique là, que je m'en voudrais de pas mentionner avant qu'on termine. C'est une initiative aux États-Unis qui s'appelle le Bike Bus ou Bike School Bus. Ça, je rêverais de voir ça dans nos rues au Québec. Okay. Donc, c'est un homme qui s'est dit, « Hey, les enfants, ils aiment ça être actifs. Ils aiment ça prendre le vélo. » Puis, durant le jour, ils sont souvent hyper actifs en salle, en salle de classe. Ils ont de la misère à se concentrer. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas un matin, soyons pas trop ambitieux, là, peut-être un matin par semaine, qu'on se réunisse, les enfants qui veulent participer, tous à vélo, et on trace un parcours pour se rendre tous ensemble de façon sécuritaire jusqu'à l'école, tout le monde en vélo, avec les casques de vélo, tout ça, avec l'assentiment des parents, bien sûr. Et Anne-Julie, ça a un succès monstre.
Wow, OK.
On voit les vidéos de ces enfants-là qui sont à vélo. C'est très émouvant. C'est super beau à voir. Wow. Les enfants arrivent avec le sourire à l'école, ils ont hâte d'entrer puis d'apprendre dans les cours. Ça, je pense que c'est le type d'initiative tellement réalisable à l'échelle locale. Et on ne sait jamais le genre d'impact, de bénéfice que ça peut avoir. Je pense qu'on sous-estime la capacité de l'être humain à s'adapter.
Absolument. Puis il faudra aussi être justement très créatif quand on revient à l'innovation, la créativité. C'est un peu tout ça que ça nous offre. Puis il y a des gens comme toi, en plus, qui sont formés, qui mettent ça de l'avant, vers qui on peut se tourner pour nous aider à solutionner puis un paquet de problématiques autour de l'environnement, de l'écologie dans notre région. Fait que je vais mettre les coordonnées pour rejoindre ma liste.
Merci beaucoup, c'est ma passion. Hey,
merci tellement. Oh, c'est super. Non, mais c'est le fun, je pense, que d'entendre parler de tout ça, ça nous donne des idées. Puis quand on connaît pas ça, à un moment donné, le problème devient tellement grand qu'on sait plus par quoi commencer. Puis c'était l'envie que j'avais aujourd'hui, c'était d'offrir aux gens une conversation qui est pas racoleuse là, autour de l'écologie, mais vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Puis comment tu peux commencer? Par quoi tu peux commencer? Une petite chose toute simple qui, au fil du temps, va avoir un réel impact, là.
Oui, puis...
Dans ton quartier,
C'est très normal de parfois se sentir impuissant par rapport à, quelle différence est-ce que moi je peux faire? Mais c'est collectivement qu'on peut faire une différence. Tu sais, ce terme « think globally, act locally ». C'est-à-dire, tu penses globalement, mais tu agis localement. Et on a la force du nombre, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Je veux dire, il y a 1 million de personnes qui ont marché à Montréal en 2019 pour sauver le climat. Alors, c'est dire le nombre de personnes qui sont déjà conscientisées, déjà mobilisées, qui sont prêtes à faire des compromis, prêtes à faire des sacrifices pour sauvegarder l'avenir de leurs enfants.
Absolument.
Donc, il y a absolument de l'espoir et on est nombreux. On est nombreux à faire une différence.
Oh, sur ces paroles d'espoir, Mali, merci!
Merci à toi pour l'invitation, ça a été un plaisir.
Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous invite à vous abonner au podcast Innover Créa sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. Un merci tout spécial à Millimétrique qui a composé mes thèmes musicaux. Je vous encourage à découvrir sa musique sur Bandcamp. Et à très bientôt!